Alors, donc aujourd'hui, pour l'honneur des invités spéciaux, on va étudier un texte du Sfat Emet. Alors, qui est le Sfat Emet? Comme toujours, c'est l'occasion aussi de découvrir quelqu'un, c'est le... c'est le deuxième rabbi de Gour, je m'explique. Gour, c'est une grande lignée chassidique, d'accord? Donc, on est toujours dans les descendants du Baal Shem Tov, et il y avait Rabbi Bounam de Pshisra, etc., c'est les élèves du Baal Shem Tov. Et il y a un très grand maître qui s'appelle le Chidushi Harim. Alors, ces noms-là, en fait, c'est pas des noms, c'est le nom de leur livre. Comme Sfat Emet, ça veut dire la langue de vérité. D'accord? C'est un homme très droit, puisque c'est des disciples du Rabbi de Kotsk, qui est un homme qui travaille beaucoup sur la rigueur et le Emet. Et donc, on les a nommés du nom de leur livre. Par exemple, Chidushi Harim, ça veut dire les Chidushim, les enseignements. Harim, c'est Rabbi Yitzhak Meir, Alter. C'était son nom. C'était le premier fondateur de la lignée Gour. Parce qu'en réalité, quoi, comment ça se fonde une lignée, si quelqu'un il a l'intention? Vous habitez dans une ville, vous avez des milliers d'élèves, et donc vous êtes le premier rabbi de la chassidoute de Grenoble ou de Saint-Martin-d'Hères, d'accord? Et puis après, votre fils, il sera le deuxième rabbi, c'est comme ça que ça se passait. Donc en réalité, la lignée de Gour, elle n'existait pas. Il y avait des rabbanim, puis il y en a un qui est devenu un très grand maître, qui habitait à Gour, le Chidush Harim, il est devenu le premier rabbi de Gour. Et depuis, la chassidoute de Gour, c'est une chassidoute immense, qui n'a plus rien à voir avec Gour, mais il descend du premier rabbi de Gour. Son fils est mort très jeune, le fils du premier rabbi de Gour, du Chidush Harim, et son petit-fils, c'est lui ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est le Sfat Emet. Et peut-être le Sfat Emet, c'est lui qui a donné, on va dire, son titre de gloire à la chassidoute de Gour. C'est vraiment un très très grand maître, il s'appelait Rabbi Yehuda Arié Leb Alter. Le nom de famille des Gours, c'est Alter. Au départ, il s'appelait Yehuda Leb. Et comme son beau-père, le père de sa femme, il s'appelait aussi Yehuda Leb, alors on lui a rajouté un nom, Yehuda Arié Leb. Donc il s'appelait comme ça, Yehuda Arié Leb Alter. Et en fait, ce nom, il est inconnu pour beaucoup d'entre nous, on ne connaît que le Sfat Emet. Sfat Emet, c'est devenu son nom, d'accord? Et maintenant, il y a il y a eu après le Pnei Menachem, son fils, son frère, etc. Et la dynastie a continué jusqu'à maintenant. Et la chassidoute de Gour, c'est une chassidoute très forte, très puissante. C'est elle qui a le grand bâtiment, ceux qui connaissent à Yerushalayim, qui ressemble au Beth Amikdash, qu'on voit de très très loin, un immense, immense bâtiment. C'est la chassidoute de Gour. Ce sont des chassidim très puissants, très organisés. Alors, et donc le Sfat Emet, lui, il est très connu. Il a écrit beaucoup sur la paracha, il a écrit aussi sur la Gemara, et c'est souvent difficile ce qu'il dit, mais c'est lumineux, il est très, très inventif dans ses chidushim. Qu'est-ce qu'on va étudier aujourd'hui? Un verset de la paracha de Bo qui dit ceci, vous l'avez en haut. « Ubnei Israël asu gidva Moshe » Les Bnei Israël, ils ont répondu à la parole de Moshe, qui leur a demandé, supplié instamment, Vish alou d'emprunter mes Mitzrayim, ils ont emprunté des Égyptiens, Kelechesef, des objets en argent, Chlezaav, des objets en or, Ousmalot et des vêtements, d'accord? Des parures. Bon, alors, ça c'est tout dans ce fameux stratagème qui est en lui-même une réflexion, qui est que quand Moshe Rabbeinu l'a proposé à Paro, il a dit ne t'inquiète de rien, on s'en va pour 3 jours, après on revient. D'accord? Et ils ont dit aux Égyptiens, vous inquiétez de rien, je prends la ménagère en argent, je prends les vases en or, je prends tous les trucs, et dans 3 jours, on est de retour. D'accord? Et ils sont partis avec, ils ne sont jamais revenus. D'accord?
Mais ça, c'est une ruse de Moshe.
Non, c'est Hachem qui avait dit. Ah ouais, c'est Hachem qui avait dit. Et donc, après, tout cet argent qu'ils ont récupéré, quelque part, comme dit la Gemara, c'était aussi le salaire des 210 ans d'esclavage. Je veux dire, ils ont tout un peuple qui a travaillé pendant 210 ans, qui a été maltraité, il fallait qu'ils soient récompensés. Ils leur auraient jamais donné tout cet argent, ils auraient dit déjà c'est bien qu'on vous donne la liberté. Donc ils ont rusé pour ça. Plusieurs centaines d'années après, les descendants des Égyptiens ont fait un procès à la haie aux Juifs en leur disant « mais vous nous avez volé cet argent, il faut nous le rendre ». Alors ils ont envoyé un délégué, c'était l'arrière-grand-père de Aaron Barak, et qui leur a dit, oui, mais d'accord, on veut bien vous rendre, venez, on fait le décompte de 600 000 personnes qui travaillent pendant 210 ans, d'accord, si vous nous payez ça, et ben nous, on vous paiera ça. La même chose, ça veut dire que si on décomptait le mal que vous nous avez fait, ben on verrait, est-ce qu'on a besoin de s'excuser pour les victimes collatérales. D'accord? C'est toujours la même histoire. Attendez, on va faire le compte du mal que vous nous avez fait
Bien sûr.
dans ce jour-là, et après on discutera, oui, il y en a quelques-uns qui sont morts sur les côtés, c'est les victimes collatérales. Ok. On n'en sort jamais de cette histoire-là, coq. On tourne toujours sur ce problème-là. Alors, en tout cas, il reste ce problème-là. Qu'est-ce qu'ils avaient à faire des objets en argent, des objets en or et des vêtements? C'est quoi cette histoire-là d'emprunter? Bon, emprunter, on a expliqué, c'est d'accord, c'était une sorte de salaire de leur travail. Mais pourquoi ils ont besoin de l'argent, prendre de l'or, de l'argent? C'est quoi les kélim? Des kélim en argent, des kélim en or et des vêtements. D'accord? C'est là-dessus qu'il va s'interroger le Sfat Emet. Ah, regardez bien. Donc, Bepasouk, dans le Pasouk d'Aberna, où Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, parle s'il te plaît, Vish, Alou, et qu'ils empruntent, qu'elle est Chesef. Et on a dit, dans notre verset, au Bnei Israël, à ceux qui devant Moshe, les Bnei Israël, ils ont fait la parole de Moshe, ils ont emprunté. Et Rashi, il dit, pourquoi ils ont fait ça? Que dès chez Loyomar, pour ne pas qu'ils disent, auto tzadik, ce tzadik de Avraham, va avadum ki em baem, qu'Hachem a accompli sa parole de dire il sera asservi, mais il a peut-être pas accompli sa parole qui était, quand il a dit à Abraham, ils sortiront avec une grande richesse. Alors, je m'explique. Quand Hachem, à Abraham, il lui a dit, à cause de ton manque de Emouna, les Juifs, ils seront en esclavage pendant 400 années, d'accord? 430 années, il devait être, il y a eu une réduction. Et Hachem, il a dit, mais ne t'inquiète pas, ils sortiront avec une grande richesse. Donc Hachem, il a réduit le délai en faisant démarrer le compte à rebours à partir de la naissance de Yitzhak, etc., pour que ça reste 210 ans, mais 401 ans depuis Yitzhak. Mais Rashi dit que pour ne pas qu'on ait une sorte de critique en disant « Ah oui, pour nous mettre en esclave, tu nous as mis, mais pour nous accomplir la deuxième partie de ta promesse de la richesse, tu ne nous as pas donné. » Alors c'est pour ça qu'il fallait absolument faire ça. Mais ça ne reste qu'une réponse un peu obscure. D'accord, mais la richesse, est-ce qu'ils avaient besoin de prendre des kélim? Ils pouvaient leur donner de la richesse en or, en argent, les trésors de Paro. L'Égypte était un pays immensément riche. La Vinaïnian, donc au milieu de la deuxième ligne, pour comprendre ce sujet-là, qui a doua, alors c'est un décollage vertical, hein, tout de suite, qui a doua, c'est connu, chez Bnei Israël et Elum et Mitzrayim, Nitzutzot Kedushot. Ah, vous soulignez ça. Que les Juifs, ils ont fait monter d'Égypte des étincelles de sainteté. Ok? Ça veut dire que tout le passage des Juifs en Égypte et tout le passage des Juifs dans l'exil, dans toutes ces contrées, que ce soit l'Amérique, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, tout ces, ou l'Europe, c'est qu'il y a des étincelles de sainteté qui sont dispersées. On va expliquer. C'est quoi les étincelles de sainteté? Shayanim Tsacham qui se trouvait là-bas, qui est directif comme c'est marqué, Kegan Hashem Keret Mitzrayim. C'est le jardin d'Hachem, cette terre d'Égypte. C'est-à-dire quoi le jardin d'Hachem? C'est-à-dire qu'il y a des pays où il y a plus d'étincelles de Nitzutzot Kadusha, d'étincelles de sainteté. V'chen Matsinu, c'est ça qu'on a trouvé Be'avot, dans les patriarches, Shi'ardu Mikodem le Mitzrayim. Ils sont tous descendus en Égypte. V'nerchav, d'accord, Abraham, etc., sauf Yitzhak, mais Abraham et Yaakov, ils sont descendus. V'nerchav lehem les Shvach. Et ça leur est considéré comme une gloire, Shalou Misham, de remonter de là-bas. Descendre en Égypte et en remonter, en fait, pour les patriarches, c'est essayer d'aller récupérer des étincelles de sainteté. Bon, alors on va s'arrêter 2 secondes. C'est quoi ces étincelles de sainteté? Les étincelles de sainteté, c'est arrivé à... En fait, quand Hachem, il a créé le monde, d'accord? Alors, bon, il y a plusieurs manières de... C'est lui qui a créé le monde. Donc sa présence, elle est dans tous les éléments du monde, dans tous les pays du monde. Okay? Donc, dans chaque nation, comme elle est, comme elle existe, sa manière d'exister, sa manière d'être, il y a une parcelle divine là-dedans. Bien sûr qu'ils peuvent abîmer, mais les Allemands, les Américains, les Italiens, chacun, il a son mode de vie. D'accord? Dans ce mode de vie, alors bon, c'est un peu de la vulgarisation que je fais, mais juste pour comprendre. Dans ce mode de vie, dans cette culture, dans ces choses qui le différencie des autres nations, il y a quelque chose de saint, il y a quelque chose de bon. Okay? Et le fait d'aller dans un pays et de récupérer ça, c'est les bonnes choses qu'il y a dans cette civilisation, c'est ce qu'on pourrait imaginer appeler les étincelles de sainteté dans un aspect vraiment très large. D'accord? En mystique, ça va un peu plus loin, je m'explique. Dans la Kabbalah, ils expliquent que quand Adam Arishon, au départ, la sainteté, elle était centré en Eretz Israël. là où vivait Adam Arishon. Quand il a fauté, il a fait exploser tout ça, et il y a des étincelles de sainteté qui se sont éparpillées dans le monde. Ça veut dire, on va, si vous voulez, pour traduire dans ce qui est audible pour nous, des étincelles de sainteté, c'est, on pourrait traduire des perceptions de la présence de Dieu. D'accord ? Des bonnes choses dans le monde. D'accord ? Donc, par exemple, dans chaque culture, chaque civilisation, alors après, c'est vraiment une approche, c'est juste personnel pour comprendre, mais on peut imaginer que dans la culture française, il y a des choses qui sont bonnes. Il y a des bêtises, mais il y a des choses qui sont bonnes dans le comportement français. De la même chose que même si les Allemands, ils nous ont fait du mal, mais il y a des choses qui sont récupérables dans leur culture, dans leur mode de vie. Et chaque civilisation, elle a un mode de vie, elle a quelque chose. Aussi le pays, l'endroit, la manière dont on glorifie Dieu quand on voit les Alpes, c'est pas la même que quand on le glorifie, quand on voit la Pampa en Afrique, quand on voit la toundra ou j'en sais rien quoi, vous voyez. Donc c'est dans ce sens, il faut, les étincelles divines, à notre niveau, hein, on voit bien qu'on est bien d'accord, hein, il y a plusieurs manières de voir ça, mais à notre niveau, c'est des bonnes choses qu'on peut récupérer dans une civilisation, dans une culture. La même chose quand les Juifs, ils ont passé leur temps en Algérie, ils sont repartis d'Algérie, mais ils ont emmené avec eux un peu de cette terre, un peu de quelque chose. Les Juifs en Espagne, d'accord, ils se sont développés. Alors bien sûr que c'est les Juifs, mais ils ont pris de cette culture, ils ont puisé de cette culture, que ce soit dans le chant, que ce soit dans la philosophie,
même dans la
donc
cuisine.
Partout, voilà, même partout où les Juifs ont allé, d'accord, ils ont retiré avec eux des étincelles de sainteté. Et il y a des endroits où ils ont tellement retiré que le pays s'est asséché. L'Espagne, après le départ des Juifs, s'est asséché. L'Égypte s'est asséché. Mais le rôle du peuple juif, en réalité, c'est celui-là. C'est de ramener en Israël toutes ces étincelles de sainteté. D'accord ? Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on voit des Juifs de tous les pays du monde qui reviennent et qui ramènent chacun avec eux une parcelle de leur culture. D'accord ? Alors c'est vraiment une approximation des étincelles de sainteté qui permet d'être audible. D'accord ? Mais il y a des choses encore plus profonde, c'est-à-dire que des étincelles de sainteté, c'est-à-dire que si un juif il s'éveille à la Torah, d'accord, parce qu'il a vu quelque chose, parce qu'il a entendu quelque chose, parce qu'il a vécu quelque chose dans un endroit, bien cet éveil-là, c'est comme s'il récupérait les étincelles de sainteté. Alors par exemple, on dit, quand on a l'habitude de dire quand je fais une bracha sur un fruit et je le mange, je récupère l'étincelle de sainteté qu'il y avait. La même chose. Donc ça veut dire que je profite du monde et je remercie Dieu. La même chose si je vais à l'Himalaya et que j'ai une louange à Dieu parce que j'ai vu que c'était beau la nature, donc j'ai récupéré des étincelles de sainteté qui étaient dans l'Himalaya. D'accord ? Oui Charles, attends Charles, il veut dire un truc. Oui.
C'est une interprétation ça ?
Oui, c'est une vulgarisation. C'est-à-dire une interprétation de quoi tu veux dire ? Alors d'abord Charles, dis-moi.
Non, je
comprends
ce que tu dis, mais je ne sais pas si j'ai bien compris parce que... Tu dis étincelles de sainteté, elles sont dispersées parmi les nations.
Oui, dans le monde entier. Pas seulement dans les nations, et aussi dans la nature. Par exemple, le Baal Shem Tov, il allait dans un endroit faire une bracha dans une source, il récupérait les étincelles de sainteté qu'il y avait dans cette source. Oui.
Mais j'aimerais savoir la chronologie, pour moi. Est-ce que c'est la présence des juifs sur telle ou telle terre qui a apporté la sainteté? Ou alors qui a récupéré la
sainteté. La question est bonne, c'est récupérer. Les étincelles, elles y sont, il faut les récupérer. Partout, rien ne peut exister dans le monde si ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ça qu'on appelle des étincelles de sainteté. Donc en réalité, pour être un peu provocateur, il y a des étincelles de sainteté dans une boîte de nuit. Ouais. Je m'explique. Hein. D'accord ? Après, pour aller la chercher, c'est dangereux, tu te salis. Il y a des étincelles de sainteté dans la boue, il y a des étincelles de sainteté dans le mal, il y a des étincelles de sainteté partout. C'est-à-dire, étincelles de sainteté, c'est l'expression de la volonté de Dieu. Mais notre rôle à nous, c'est pas de récupérer les étincelles de sainteté qu'il y a dans le jambon. Dieu, il nous a interdit le jambon. Nous, on récupère les étincelles de sainteté du jambon en le mangeant pas. D'accord? C'est ça qu'Hachem nous a dit. Vous voulez, c'est vrai, le jambon, il existe par ma volonté. Sinon, il n'y aurait pas de jambon. Le mal, il existe par ma volonté. Votre rôle à vous, c'est de lutter contre le mal, de ne pas consommer les choses interdites, et c'est comme ça que vous récupérez. D'accord ? Mais on n'a pas l'obligation. C'est pour ça que, alors, par exemple, en Eretz, il y a des gens qui côtoient, on va dire, des délinquants, qui côtoient des endroits peu fréquentables, pour essayer de récupérer des juifs. Donc eux, ils se mouillent, d'accord ? Ils se salissent. D'accord ? Alors maintenant, et c'est vrai que chaque fois qu'on fait quelque chose, quelque part, on donne un peu de soi pour pouvoir récupérer. Côtoyer le monde qui nous entoure, c'est aussi un peu prendre des risques. D'accord ? Mais on le fait parce qu'on doit travailler. Quand tu travailles, d'accord, et que tu côtoies des clients, et que tu fais kiddush Hashem parce qu'ils disent « Ah, ce juif, il m'a aidé », d'accord, et tu as récupéré quelque chose, d'accord. Chaque fois que tu fais un kiddush Hashem dans ton travail, dans ta vie, dans ton voisinage, d'accord, tu récupères. Alors, vous allez me dire, il y en a des milliers ? Oui, il y en a des milliers, d'accord. Et c'est ça le rôle qu'on fait. Quand on fait le fait de faire une bracha, c'est ça. Alors, bien sûr, c'est une vision mystique de ça, hein, cette histoire des intérêts. Mais comme on l'a expliqué, on n'est pas obligé de passer directement dans la Kabbalah, etc. Je veux dire, ça, c'est audible, d'accord. C'est-à-dire que le sens de l'exil, il y a un sens dans l'exil. L'exil, c'est pas seulement une punition. Il y a un sens positif dans l'exil. Ce sens positif de l'exil, c'est se renforcer. Les Juifs, ils se sont renforcés en exil. Bon, c'est vrai que c'était une punition. Ils ont envoyé des Israélites. Ah oui, au départ, c'est ça. Mais il ne peut pas y avoir de punition qui n'ait pas un sens positif. Hachem, il n'a pas un bâton pour dire « pan » sur la tête. Il dit « voilà, je te fais une tentative de réparation, de récupération. Si déjà tu dois aller en prison, eh ben autant que tu fasses des diplômes. Si déjà tu dois aller en galoute, autant que tu sois utile, tu récupères ces étincelles-là. » Et Hachem, il a dispersé le peuple juif pour ça. C'est clair, ça ?
Oui,
c'est vrai.
Juste que les études qu'on a là-bas en Israël, enfin, où on est avec Ravzini, il dit le contraire. Enfin,
Quoi ?
Il dit, sa phrase principale, c'est « Déshabillez-vous de tout ce que vous avez appris en France. »
Ah, très bien.
De tout.
Très bien. C'est une très bonne remarque.
On n'apporte rien, on ne prend rien. Alors, il faut enlever tout, il dit tout.
Bon,
vous êtes
d'accord.
Sale.
D'accord,
dit, voilà.
Très bien, on va voir ça. Très bien. La remarque, elle est bonne, j'entends. J'entends, c'est vrai que le français qui arrive, il arrive avec sa culture française et il arrive du mal à vivre. Alors, maintenant, on va reprendre là-dedans. Non, mais c'est une très bonne remarque, c'est une très bonne remarque. Maintenant, il y a enlevé son comportement français, mais tu peux garder à l'intérieur l'aspect positif, c'est-à-dire qu'il y a l'enveloppe et l'étincelle.
Ou même la langue, c'est-à-dire qu'il bon. Refuse de parler français.
Bon, après il y a de l'extrémisme dans tous les domaines.
Non, je te dis, voilà.
J'entends, je comprends ce qu'il dit. On va essayer de voir si avec ce qu'on étudie, on peut en répondre. Non, c'est une très bonne remarque, oui.
David, le RF Rav,
oui.
Est-ce que c'est positif, c'est...
Khazak, à deux Tunisiens, vous avez éclaté le spito. On va arriver, regardez. On avance. Dekhen ?
Non. Oui.
Non, mais c'est valable même pour le Maroc. Hein.
Qu'est-ce que j'allais te dire ? À t'écouter à ta remarque première, ça veut dire qu'il y a plus de sainteté à récupérer dans certains endroits que dans d'autres.
Ah, c'est ce qu'on va voir.
Ah, bah oui.
C'est ce qu'on va voir. Pourquoi ?
Maroc, enfin,
oui. Non, mais non. Attention.
Ah bah oui, ouais.
Attention, mais parce que tu as une idée première. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de rabbins marocains. Au Maroc. Mais c'est pas celle-là, c'est des étincelles dans la culture marocaine, dans le Maroc, dans les cailloux du Maroc, exactement. Dans les cailloux de la Tunisie, dans la culture, c'est dans ce sens-là, dans l'impureté même. On va voir, regardez. Regarde, je suis à la cinquième ligne, vous y êtes ? Donc on a parlé des Avot, on a parlé de Avraham et de Yaakov, qui eux aussi ont fait leur chemin de promenade en Égypte. D'accord, et ils ont souffert en Égypte avec le pharaon, etc. Sarah qui a été prise, etc. C'était dur pour eux. Et ils ont mis la main dans la boue et ils en sont ressortis. Que Deita Bezoar Akadosh, comme c'est rapporté dans le Zohar, chez Adam ve Noar, que Adam et Noar, lo amdu be koarze, ils n'avaient pas cette force qui avote comme les avotes. Adam, il a jamais bougé. Et Noar aussi. Ils se sont enfermés dans une boîte, mais ils n'ont pas été au devant du mal. C'est d'ailleurs ce qui est reproché à Noar. Dirtiv va'em aliyam mitzrayim, comme pour les Avot où c'est marqué montée d'Égypte. L'idée de monter d'Égypte, l'idée de repartir des pays de l'exil, d'accord, ça, il y a là-dedans cette idée de récupérer les nitzutzot. Et on n'a jamais vu pour Adam comme pour Noah qui se sont mouillés pour récupérer des nitzutzot. Ok.
Yitzhak aussi un peu.
Yitzhak aussi, exactement. Oui, pas un peu, il n'est pas sorti. Yitzhak. D'accord. Chacun, il a une avoda différente, d'accord. Mais Ren, Bibné Israël, et la même chose pour les Juifs, Ktiv, c'est marqué, Yaaloum Mitzrayim. Ils sont montés d'Égypte, d'accord, c'est faire sa alia. D'accord, montée d'Égypte, c'est monter en Eretz Israël, du Maroc, d'Algérie, de France, de partout. Il y a une idée positive là-dedans. Vegam Erev Rav. Voilà la question de Gérard. Le Erev Rav, oui. C'est qui le Erev Rav? C'est ce mélange des peuples qui étaient en Égypte et qui a suivi les Juifs quand ils ont sorti d'Égypte. Ok? Donc c'est. Alors ce Erev Rav, il a eu aussi une connotation négative. Ou Atarovet, c'est ce mélange. Shaya Meorav Bemitraim qui était mélangé en Égypte. Et Arot Rabot Meagdusha, avec de nombreuses lumières de sainteté, de nombreuses étincelles. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'Égyptiens qui avaient en eux quelque chose de bien, qui avaient une étincelle de sainteté, mais pas suffisamment forte, d'accord, pour émerger. Ils se sont collés au peuple juif avec leur saleté, avec leurs habits sales. Tu vois? Donc il y a, et ça, c'est ce Erev Rav. Ve'alze, et donc, et aussi effectivement, les guérim, le guerre, le converti, ok? C'est une étincelle de sainteté très forte qui était chez les Italiens, chez les Espagnols, chez les Noirs, chez les n'importe où, et qui émerge, qui se met à briller tellement fort qu'il faut qu'elle revienne dans le peuple juif. Et effectivement, on l'avait parlé plusieurs fois, que pourquoi un guerre il se réveille dans une nation tout d'un coup où il se dit « Allez, je vais devenir, je viens ». Il y a des guérims qui sortent de nulle part. C'est-à-dire, tu dis « Mais il est dans... » On voit des gens, tac, ils émergent un jour, ils ont envie de devenir juifs. Pourquoi? Comme le Brésilien, là, Savio, là, notre copain, il est de nulle part. Il est du fin fond du Brésil, ça lui a pris de devenir juif. Alors, dans le Zohar, c'est marqué que c'est des étincelles qui sont parties très très loin, c'est des grosses étincelles. Et elles, à un moment, elles se sont réveillées. Elles se sont dit, il faut que, tu vois, c'est comme une sorte d'attraction vers la centrale.
Et comment elles se réveillent?
Eh bien, parce que, je sais pas.
J'ai pas dit pourquoi, comment?
Oui. Comment? Je sais pas, ça, je sais pas. Est-ce que c'est le moment? Après, il y a des moments, il y a des, je sais pas. Il y en a un tachlit, il y a un rôle. Des fois, c'est Hachem qui les réveille. Des fois, c'est Hachem qui les réveille. Et des fois, c'est des mérites. Des fois, c'est un mérite qu'ils font, qui leur donne ce mérite de réveiller cette étincelle. D'accord?
Pour moi, c'est vraiment Hachem.
Alors, regardez. Ve'alze, et c'est là-dessus. Ramaz Akadosh Baruch Hu Yaakov, qu'il a fait une allusion Hachem à Yaakov. Alcha Gamalo. Je te ferai monter. Quand Yaakov ne voulait pas, il avait des scrupules de descendre en Égypte avec ses enfants, Hachem il a dit, ne t'inquiète pas, tu peux descendre avec tes 12 enfants, je vous ferai remonter. Et cette Alcha Gamalo, monter, je te ferai remonter, cette double remontée avec Zehur Rechush Gadol, c'est ça la grande richesse. Que quand il a dit, je te fais remonter, c'est physiquement et spirituellement. Tu remonteras d'Égypte, c'est vrai, mais cette montée sera une montée, ça veut dire, ça a une élévation, parce que tu récupéreras des choses en Égypte. Il y a des choses à récupérer en Égypte. Il y a des choses à récupérer en France. D'accord? Très bien. Achen, cependant, Vadaï, Madrigot, Béni Israël, c'est certain que le niveau des Juifs, Kacher, Yatsum, Mitzrayim, quand ils sont sortis d'Égypte, Aya, les Malameod, il était très élevé. D'accord? Alors, bien sûr, pas en Égypte, mais quand Hachem il les a sortis, il les a éclairés, il les a fait monter. C'est comme s'il les a nommés ministres. Ils sortaient de prison, il leur a donné une grande lumière. Chez Zahou, les Kabel, Aseret, Adiberot, parce qu'ils ont mérité tout d'un coup, au bout de 40 jours, de recevoir le dévoilement d'Hachem et les 10 commandements, Venitromemu, et ils ont été élevés, Kemalaché Asheret, comme des anges. Vesherata Shivra Alayam, et elle a vu une servante à la mer, Mashelo Raonvin. Ce que ne voyaient pas les prophètes, ça veut dire que, ça c'est ce qu'il faut bien savoir, nous on a beaucoup de mal pour ça, c'est comme si tu prends un repris de prison, un repris de justice, et tu te mets Premier ministre. Ah. Toute référence. Toute référence, c'est vraiment sensible. Voilà. D'accord? Mâche le renvim. En vérité, c'est ça qui s'est passé. Il faut bien rigoler un peu. C'est ça qui s'est passé avec les Bnei Israël. Ça veut dire qu'Hachem, il les a fait monter d'un seul coup très très élevé. Il y avait presque plus de matériel. Il y a Doua. D'accord? Et donc, ils étaient cependant différents du Erev Rav. Le Erev Rav, il fallait encore qu'ils luttent. C'est-à-dire, ils avaient encore des couches et des couches de matérialité. Il y a Doua. Et c'est connu qu'il rôle à Ra chaque lumière, Yeshla Itlapshut. Elle a un habit. Il ne peut pas y avoir, on vit dans un monde où toute lumière, donc après il faut toujours traduire et retraduire, mais prenez l'habitude, une lumière c'est une étincelle divine c'est une manifestation de la présence de Dieu dans le monde. D'accord? Donc, sous quelque forme qu'elle soit dans une forme de chesed, dans une forme de comportement, dans une forme de beauté, tout ça c'est des étincelles de la présence d'Hachem. D'accord ? C'est Hachem qui a créé un monde comme ça. Un papillon, quand tu le vois, qui est tellement beau, d'accord ? C'est parce qu'Hachem, il l'a vu beau. Une mandarine qui est tellement belle, des couleurs. Comment Hachem, il a fait ce monde ? Quand tu vois les fruits qu'il a fait, de toutes les couleurs, tu ne peux que t'émerveiller. Cet émerveillement, c'est une étincelle divine. D'accord ? Et quand tu t'émerveilles et tu bénis Hachem, tu récupères cette étincelle divine. Ok ? Donc, il n'y a pas des étincelles divines sans habits. Elles sont toujours habillées, elles sont toujours cachées. Kemo itlabshut aneshama, c'est comme l'habillage de l'âme, bagouf, dans le corps. Ukfi itromemut aneshama, et selon l'élévation de l'aneshama, kacham malbouche, c'est comme ça qu'il est le vêtement. Alors ça, c'est en règle générale, c'est avec Maradimi, il y a des exceptions, beaucoup d'exceptions d'ailleurs, c'est que un corps, comme la Gemara dit, un beau corps, ça peut être l'expression d'une belle âme. D'accord ? Mais il y a aussi de très belles âmes dans des vilains corps parce qu'elles ont un autre tikkun. C'est une autre réparation à faire. Velachem. C'est pour cela, il dit le Sfat Emet. Utsrachu bnei Israël. Ils ont eu besoin, les bnei Israël, les horid atzmam, de descendre, les itkarev et la gashmiut, de se rapprocher de la matérialité. Ça veut dire de se rapprocher de l'esclavage, du travail, de l'impureté. Qu'aider les Kabel et Arod Mimitraïm pour arriver à récupérer ces étincelles d'Égypte. Ça veut dire là, il va très très vite, bon, on fait rapidement, mais il est en train de dire que la descente aux enfers du peuple juif en Égypte, d'accord, elle a eu un intérêt, c'est de récupérer les étincelles les plus cachées dans la saleté. La même chose, vous voyez un type en Eretz Israël, surtout c'est beau, je pense toujours à Kanta, quand vous allez au mikvé, vous voyez un type plein de tatouages partout qui sort du mikvé avec des papillotes, c'est incroyable, c'est d'où il sort, d'accord ? Il y a des gens qui sont comme ça, ils n'ont pas honte, hein. Ils sont des grands, moi je me rappelle à Ashdod, j'ai vu ça, il y en a beaucoup à Ashdod comme ça, des gens qui ont fait tchoua, et ils sont tatoués de tous les côtés, c'est des anciens, je sais pas quoi. Ce type-là maintenant, sa vie, pourquoi c'est comme ça, je sais pas. Mais là où il est allé, là où il est remonté, il a remonté avec lui des étincelles de sainteté. Il était dans la mafia, dans je sais pas quoi, dans le mal, et en remontant, il a remonté des étincelles de santé. Alors, Mazur, on nous a pas demandé ça, d'accord? Mais c'est un rôle spécial qui est attribué à ces gens-là. Il dit, le Vatémet, quand les Bnei Israël, ils sont descendus en Égypte, ils se sont salis les mains. D'accord? Mais il fallait qu'ils fassent ça, parce que c'était le seul moyen de faire remonter des étincelles qui étaient très très basses. Ok ? Vezeo Inyan, et il dit c'est ça le sujet, chez Elat Akelim, qui est suggéré, quand on parle d'emprunter les Kelim, les objets Mimitraïm d'Égypte, emprunter. Et ici, ça répond peut-être à ta question. Emprunter les Kelim, c'est quoi emprunter les Kelim ? C'est prendre l'argent, l'attrait pour la richesse, l'attrait pour la beauté, l'attrait pour les beaux vêtements, l'attrait pour la culture, on le récupère. Mais on vous rendra, ce qu'on récupère nous, c'est l'étincelle de sainteté qu'il y avait là-dedans. Et donc c'est peut-être ça par rapport à ce que tu dis, Dravzini. Ça veut dire que effectivement, on doit enlever, bien sûr que, je sais pas, le juif américain, d'accord, il arrive, il s'achète les grosses voitures, les gros sites, tout est gros, tout est démesuré, d'accord. Ça, il te dit, ou je sais pas de quoi il faisait allusion, mais tu dois le laisser de côté. Par contre, l'amour du grand, l'amour du beau, l'amour du meilleur pour Hachem, ça tu peux le garder. Donc c'est dans ce sens-là. On ne doit pas tout enlever. Il n'est pas question de niveler l'Israélien au même niveau. Un juif français, il reste avec la beauté de sa culture. Un juif américain, un juif italien. Mais les kelim, l'habillage de la lumière, il doit le laisser. C'est dans ce sens-là, je pense qu'il faut répondre à ça. Tu vois, ça veut dire que c'est ça qu'il dit. Et c'est pour ça qu'on comprend bien, il dit, vous allez emprunter ces kelim. C'est quoi ces kelim, comme il l'a dit le Sfat Emet ? Ce sont les habits d'étincelles. D'accord ? Donc il faut bien comprendre. C'est-à-dire que partout où on va, il y a ces étincelles qui sont habillées, qui sont enfermées, dans un objet, dans un fruit, dans une culture, dans une manière de raisonner, dans un comportement, d'accord ? Il y a du bon là-dedans. Ça, c'est Hachem qui a mis ça dans le monde. Toi, tu le récupères, mais tu récupères l'étincelle. Tu n'es pas obligé de récupérer la BM. C'est à peu près clair ?
Ouais.
Oui ? Très bien.
Et alors, pourquoi il n'y a eu que 20% ? Pourquoi il y a eu un cinquième des
gens qui ne voulaient pas faire ce chemin-là. Le chemin... Le chemin du peuple juif, il est très dur. Même si on est très fier, etc., c'est un chemin dur. Oui. Ce qu'on se demande, on n'est pas libre, on est toujours sous pression, on est toujours avec des remords et des angoisses. J'ai fait, j'ai pas bien fait, j'aurais pu bien faire, tatati, tatata. D'accord ?
Bonne journée.
Donc, c'est un chemin ardu. Prenez la feuille. Bon, je la garde,
Ouais.
Tu comprends ? C'est un chemin ardu. Ces gens-là, ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté de faire cette route. D'accord ? Vous êtes bon ? Vezéouinan Shalakim Yisraim. Veakol Aya. Et tout, c'était les Kayem Avtachal Abraham pour accomplir la promesse à Abraham. Avram Avinu, Al-Vacham, Rishon Negerim, qui était le premier des convertis, Shaya Kol Retsono, le premier des convertis, c'est quoi la conversion d'Abraham? C'est se rapprocher d'Hachem, c'est abandonner la démarche idolâtre pour se rapprocher d'Hachem, c'est ça la conversion. Donc le Av Negerim, le père des convertis, vous rappelez, on en a parlé cette semaine, le père des convertis, c'est Abraham. C'est pour ça qu'un converti, il peut dire dans Birkat Hamazon, la terre que tu as donnée à nos parents. C'est qui ton père, mais tu viens d'arriver, toi? Non, parce que tu as donné à Abraham. Abraham, c'est mon père. D'accord? Dans le sens de la démarche. Shaya kol retsono, parce que toute la volonté d'Abraham, les karev kolaborim et la vidbarar, c'était de ramener toutes les créatures vers Hachem. Parce que chaque créature dans le monde, même le noir au fond de la brousse, en vérité, il a une étincelle de Dieu, sinon c'est une créature divine. Donc, quelque part, on devrait aussi le ramener. Abraham, c'est ça qu'il voulait. Il voulait récupérer tous les noirs, les blancs, les bleus, tout le monde. Après, il a fait ce qu'il a pu. D'accord ? Yiftichu Hashem Yitbarach, et Hashem, il lui a promis, ki biyot shebnei Israël yitromemu, que bien que les Juifs allaient s'élever, im kolze malgré tout, yalou char nitzutzot, ils arriveront à faire monter les étincelles, gam kam alagam, par eux. Je m'explique cette phrase. En réalité, ils ont, le Sfat Emet, c'est tellement concis ce qu'il dit, qu'ils ont fait une édition du Sfat Emet, comme Rashi expliquait, avec des commentaires en bas. Je m'explique. Vous vous rappelez qu'Abraham Avinu, il avait des scrupules à faire la Brit Mila. Pourquoi? Parce que, rapidement, faire la Brit Mila, c'est se séparer du reste du monde. D'accord? Tu fais le malin. Oui, bien sûr, vous les Juifs faites le malin, le peuple élu, etc. C'est une vraie critique. Parce que en faisant ça, tu ne peux plus amener les gens vers toi. Tu te mets de côté, on a les commandements, on a la Brit Mila, on est le peuple élu, etc. Tu ne peux plus. C'est pour ça qu'Abraham Avinu, il a beaucoup réfléchi, d'accord? Il a dit, mais mon rôle, moi, c'est de dévoiler la présence de Dieu dans le monde. Mon expérience, je vais la faire partager au reste du monde. D'accord? Vous voyez, partager l'expérience, c'est remonter les étincelles de sainteté. Donc c'est là que je vous dis qu'en fait, c'est un problème de langue. D'accord? C'est juste une expression des choses. Ok? Donc Abraham Avinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, je veux bien, mais qu'est-ce qui va se passer du reste du monde si je crée un peuple d'élite, et après? Hachem, il dit, ne t'inquiète pas, vous allez aller en Égypte, vous serez là-bas esclaves, dans la soupe, dans le mal, et vous remonterez. Traduction mystique, ne t'inquiète pas pour les étincelles de sainteté qu'il y a dans tous les peuples. Vous irez dans tous les peuples, en particulier en Égypte, parce que l'Égypte a beaucoup d'étincelles de sainteté. Et vous serez là-bas, les mains dans la boue. Ça veut dire proche du mal. Et vous remonterez, vous récupérez tous ces étincelles de sainteté. Et on peut imaginer qu'Hachem, il a dit, ne t'inquiète pas pour l'Italie, j'enverrai aussi des Juifs en Italie. Et pour le Maroc, la Tunisie, j'enverrai. Vous récupérez. Et c'est pas parce que vous allez devenir un peuple élevé, différent des autres, qu'on n'y arrivera pas. Et donc, dans ce sens-là, la galoute, c'est pas une punition seulement, c'est un aspect positif. C'est l'accomplissement de la promesse qu'Hachem il a fait à Avraham. D'accord? Avraham, en vérité, il avait des scrupules. Il disait, mais comment faire avec toutes les étincelles dans le monde? Hachem dit, ne t'inquiète pas. Les étincelles à Champs-Rousses, j'enverrai des Juifs à Grenoble, ils vont aller à Champs-Rousses, ils vont faire des brachot, ils les récupéreront. Partout, partout, partout. Et c'est la vision chassidique, kabbalistique et chassidique des choses. C'est-à-dire, si on va à Gour, si on va à Marrakech, si on va à Tunis, c'est qu'il y a un rôle. Ah, on s'est sali les mains. D'accord, on s'est un peu sali les mains, d'accord? Mais on va récupérer l'étincelle et on va laisser le vêtement en dehors. Vous comprenez? Très bien. Au BMH, je suis 2, 4, 6, 7 lignes avant la fin.
Ah, ça veut dire que le fait de, ou la mission, entre guillemets, de récupérer l'étincelle, elle est plus importante et elle a plus de valeur et elle répare même toutes les avérances que tu peux faire en chemin.
Si tu veux. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, la question, c'est que l'objectif, c'est pas... Il y a un moment où c'est fini. La récupération est finie, il faut remettre tout en place. Et c'est l'époque messianique. Toute la question est de savoir, c'est maintenant, c'est pas maintenant, c'est pas maintenant. Tant d'arrivée, on va c'est bon. C'est ce qu'il dit Élie, le Rav Zini, il dit, allez, c'est bon, laissez tous vos habits, ramenez vos étincelles de sainteté, et c'est bon, nos étincelles. L'autre qui dit, non, attends, il y a encore un petit peu de choses à faire, à droite, à gauche, il y a encore deux, trois trucs à récupérer. C'est la question. D'accord ? Ou Béhémeth, regardez, et en vérité, vous êtes 2, 4, 6, 7 lignes avant la fin.
Non, juste que ça pose une autre question, c'est que ça pourrait vouloir dire qu'on est des éponges et qu'on les sort ce que,
oui.
que les autres ils ont.
Oui.
Et que finalement, on n'aurait pas une personnalité propre. Et c'est ce que veut dire Rabbi. Il faut qu'on retrouve notre
personnalité
propre.
Non. C'est pas ce qu'il dit le Sfat Emet. Oui, au contraire.
C'est pas ce qu'il dit.
Non, mais pas dans ce sens-là. Il dit au contraire que les Juifs étaient très élevés. Et d'accord, il c'était une personnalité propre. Et donc Abraham, il avait un problème. Abraham Avinu. Non. Donc Abraham Avinu, il avait ce problème-là. Il me dit, tu me demandes de m'élever, d'avoir une personnalité propre, d'être un serviteur de Dieu. Et le reste du monde, il dit, t'inquiète pas, on va trouver une solution temporaire, la galoute, qui est temporairement, toi, le noble, tu vas descendre dans la boue pour ramasser, après tu remontes. Mais tu restes noble. Il a sa personnalité propre. Récupérer les étincelles, c'est pas pour se construire. Le juif, il est construit. Oui, voilà. Tu as une neshama.
On a l'impression que c'est presque pour se construire.
Non. Mais voilà. Il a dit non. Il a dit justement que les juifs, ils étaient très élevés.
Ils gardent leur essence, quoi.
Voilà. Ils gardent leur essence, ils gardent leur neshama, mais ils vont récupérer des autres choses. Ou Béhémeth Matsinou. Et il dit, en réalité, on a trouvé. Vous êtes bon?
Oui.
Chez Baou, 7 lignes avant la fin. C'est bon, Jacques?
Oui.
Chez Baou Acharkar Lechet, que malheureusement, les Juifs, ils ont fauté. À l'idée à Erev Rav, à cause de ce Erev Rav, ça veut dire que c'est bien gentil de vouloir faire tous les pays du monde, récupérer toutes les choses du monde, d'accord, et les nids, toutes sortes. Mais tu te salis, tu t'abîmes, tu perds du monde. Comme tu as dit, on a perdu 4/5 qui sont restés en Égypte. Et les Juifs qui se sont paumés, et les pauvres Juifs qui se sont assimilés parce qu'ils ont fait le séjour en Algérie, en Tunisie, en Siaza, quand ils ont monté, ils avaient perdu leur culture. Donc il y a un danger. Kemo Shenemar, comme il est marqué, Vedizahav, tu nous as donné trop d'or. Ça veut dire on avait trop d'or. C'est trop compliqué. Quand il y a trop d'étincelles de sainteté, on perd son essence même. Parce que c'est trop pour moi. Il y a trop d'énergie là-dedans. De Kesef et Zahav Irbetalaim. Et vous retrouvez l'or et l'argent, tu leur as multiplié, il a dit Moshe Rabbeinu quand ils ont fait le veau d'or. Tu leur as demandé de récupérer des millions de va-nu-pieds qui venaient d'Égypte parce qu'il y avait des petites étincelles. D'accord, je veux bien récupérer de ces gens-là, mais après, ça nous cause du mal. Chez Remez Al-Anal, c'est une allusion sur ce qu'on a vu plus haut. Aliédé chez Baou, vous êtes 5 lignes avant la fin? Parce qu'elle venait à Yarot, toutes ces étincelles, Mimakom Tamé dans un endroit impur. C'est-à-dire une étincelle qui vient d'un endroit impur, qui arrive avec ses habits, pour reprendre ta problématique, qui arrive avec ses habits et qui les enlève pas, c'est un problème. C'est un petit problème. Tu vois, c'est un petit problème d'influence, qu'est-ce qui va se passer, etc. Je peux imaginer aussi que bon, je me fais un peu l'avocat du diable, si vous voulez, mais je peux imaginer, bon, c'est bien, moi je suis épaté par ces balais de chouva avec plein de tatouages, mais quelque part c'est peut-être une mauvaise influence sur la jeunesse, sur des jeunes très religieux qui voient Sipla, Barak et tout ça, avec plein de tatouages, ils disent purée, c'est bien ce truc là-haut. D'accord? Donc ça veut dire que c'est très bien d'amener des étincelles de sainteté de partout, mais quelque part il y a un danger. Si l'étincelle ne se. S'il n'enlève pas ses tatouages, c'est-à-dire s'il n'enlève pas son habit. D'accord? Donc il faut emprunter les kelim d'or et d'argent. Et les vêtements, et les tatouages, mais il faut leur rendre. Il faut ne garder que l'étincelle de sainteté de là-dedans. Et ça, c'est la difficulté. Ça veut dire qu'on a récupéré des milliers et des milliers de Erev Rav, mais bon, ils n'étaient pas encore bien façonnés, ils nous ont fait faire le veau d'or, quoi. D'accord, ça qui dit. Ayat Sarich Avoda Gdola. Il y avait besoin d'un grand travail, les Takenotam pour les réparer, ou le Tsarfam et pour les purifier, Tsirouf Achar Tsirouf, purification après purification. D'accord? Vous êtes bon là? Vous voyez ça? sous un démarrage un peu simple, ça pose des vrais problèmes, des problèmes fondamentaux de nos sociétés, de notre vie, de nos exils. Quel est le rôle, quel est le but? Mais d'un autre côté aussi, ça nous éclaire que c'est pas vain. Le passage en Égypte, c'est ça, dans ce sens-là, c'est pas une punition seulement. Le passage dans tous les pays du monde qu'on voit, mais c'est vrai, je veux dire, il faut avoir les yeux, qu'on a exploré tous les pays, puis après Maroc, Algérie, Tunisie, c'est fini, il n'y a plus personne. Espagne, il n'y a plus personne. Tout doucement, l'Europe, plus grand-chose, c'est-à-dire tout doucement, comme l'Égypte, ils ont quitté, c'est fini, ils ont récupéré ce qu'il y avait de bien et ils sont partis. Vous voyez? Achen, cependant, Vadaï, c'est certain, Yetoukan Akol, tout s'arrangera, Be'ezer Hashem, avec l'aide de Dieu Yitbarah. T'inquiète pas. C'est vrai qu'ils saoulent tous ces juifs de tous les pays qui amènent n'importe quoi en Eretz Israël et qui amènent leurs vêtements sales. Ad Geoula Atida, quand il y aura la Geoula future, Veze Hashvar, Shasu Kidvar Moshe. C'est ça la louange qu'ils ont fait les juifs qui devaient Moshe comme la parole de Moshe. C'est-à-dire que Moshe leur a dit, écoutez, je vous en supplie, allez me chercher des objets en or, en argent, des vêtements, etc. Les juifs ont dit, mais non, qu'est-ce qu'on va récupérer des joggings et des habits de casseurs? C'est bon. Il dit, si, je vous en prie. C'est ça votre rôle. Mais c'est dangereux. Si j'offre à mes enfants des habits de boxeur, eh ben, ils voudront pas étudier. Oui, mais il y a des nids tout de suite là-dedans. Et donc, le ministre a dit, bon, Moshe Rabbeinu nous a demandé d'aller récupérer le Erev Rav, de récupérer toutes les étincelles de partout que je peux trouver, d'accord, dans les bowling, dans les boîtes de nuit. On récupère. Et puis, on verra. Mais c'est un emprunt, hein. C'est un emprunt. Je rends les habits, je récupère l'étincelle. Ok? Vezenikra. Et ça s'appelle tarchitine, des bijoux. Ça veut dire que quelque part, si un homme, il arrive à voir ça, et à faire cette purification, qu'il a récupéré, c'est des bijoux. Que Moshe Nema, comme c'est marqué dans Shir HaShirim, Tore Zahav Naaselach, des colliers en or nous te ferons. Vous voyez, qu'il dit, c'est bizarre ça. Si l'or, ça a cette connotation d'étincelle un peu du mal, comment on peut dire à Hachem, on te fera des colliers en or? L'or, c'est le, pour nous, l'or, c'est le veau d'or. D'accord? Ça, et veau d'or égale rêve rave. Et rêve rave égale étincelle. Égale, etc. Donc vous voyez, comme ça, on appelle ça des béchinotes, vous rappelez, on appelait comme dans Rabbi Nachman, le concept, un concept qui s'emboîte dans des poupées russes, d'accord? Donc, collier en or égale veau d'or égale à Erev Rav égale étincelle de sainteté, égale à demande de Moshe. Et pourtant, Shlomo HaMelech, elle a dit, oui, nous ferons de l'or des colliers. Ça veut dire qu'on a la capacité d'extraire de l'or, d'extraire de la recherche de richesse, cette volonté de servir Hachem. Un juif, il est capable. Ça demande beaucoup de travail. D'être un homme riche, et un homme qui sert Hachem. Shema shetiknu chutz mitikun atzmutam, tu vois, ce qu'ils ont réparé à part leur propre réparation, puisque par essence on a aussi une réparation, sinon on serait pas un humain. Le fait d'être humain, c'est qu'on a un tikkun de notre propre neshama, qui est la neshama B6, la neshama juif B6, d'accord, de monsieur Ben Soussan, indépendamment d'où il habite, il est né en Israël, il a un tikkun à faire. Mais à part leur tikkun, ils font aussi le tikkun de la galoute. Donc en réalité, par rapport à un juif israélien, né en Israël, qui vit en Israël, lui, son rôle, c'est de faire son propre tikkun. Le juif qui vient de la galoute, il vient avec des valises d'étincelles, des valises de tikkunim. Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Si c'est abîmé entre temps, on a perdu des feuilles. D'accord? Rak, cependant, Kedé le Agbi, pour soulever Kol Haorot, toutes ces lumières, Shiardou Limata, qui sont tombées en bas, ou la Alotam Bekocham, il les fait remonter pour leur donner leur force. Ça veut dire que c'est ça notre rôle, c'est ça le rôle de la Galoute, aller récupérer toutes ces petites étincelles de lumière qui ont parsemé, qui parsèment le monde, et de les ramener. D'accord? C'est-à-dire, je peux imaginer que, effectivement, la Tunisie, enfin, ou l'Algérie, il n'y a plus rien. C'est quoi? Il n'y a pas de culture, c'est des sauvages. D'accord? C'est des barbares. Enfin, il n'y a qu'à voir, quoi. Ce qu'on pouvait prendre de la belle culture d'Espagne, on l'a pris. Maintenant, c'est fini, il n'y a plus rien. Il n'y a rien de bon. On l'a pris. On est dans les valises, on est des juifs espagnols. On reste des juifs espagnols et on a amené avec nous, consciemment ou inconsciemment, cette culture d'Espagne, cette culture du Maroc. Tu l'as avec toi. Et si tu fais ta alia, Ezra Hashem, je sais pas quand, tu vas amener avec toi le Maroc, la France et Villeurbanne. Tu comprends? ce que tu as pu récupérer, chacun ce qu'il a pu récupérer en route. Mais on s'en rend pas compte, nous, on sait pas ce qu'on a fait. Tu sais pas ce que tu emmènes avec toi, tu sais pas le travail que tu as fait. On sait pas. Mais parfois, on a fait des grandes choses. On est arrivé à récupérer des étincelles qui étaient très très loin, très enfouies dans le mal. Zenikra Tarchitim, ça s'appelle des bijoux. Regardez. Pourquoi des bijoux? Shechutz miyofe aetsem shelahem. Parce que le bijou, c'est ce qui est beau en dehors de ta propre beauté. D'accord? C'est ce qui se rajoute à ta propre beauté. Voilà pourquoi la récolte des nitsutsot est comparée aux bijoux. Et par rapport à, tu vois, je pense que ça répond à peu près à toutes tes questions. Que tu as ta propre beauté, d'accord? Et ton séjour en Tunisie t'a permis de te faire des bijoux. En plus, et c'est ça que tu ramènes à Hachem. Et le séjour en Algérie, le séjour au Maroc ou dans quelques pays du monde. D'accord? Et donc, il dit, le Sfat Emet, c'est ça que, et on comprend avec ça que Moshe Rabbeinu, il a besoin de supplier les Israélites. Je vous en prie. Écoutez-moi. D'accord? Empruntez les objets en or, en argent et les vêtements. Tous ces, c'est quoi? Non. On s'en fout de ça. Je veux que vous preniez ça parce que là-dedans, il y a des étincelles. Et les Israélites ont dit, mais laisse-nous tranquille. On doit déjà travailler pour nous-mêmes. Tu as vu ce qu'on est? On était un peuple d'esclaves. Et on va avoir la Torah. Il dit, c'est pas grave. Faites-le. Faites-le pour moi. Hachem, il nous a demandé. C'est ça le rôle de la galoute. Le rôle de la galoute, c'est pas seulement de se purifier à soi-même par l'exil et la punition. C'est un rôle positif là-dedans. D'accord? En fait, les Bnei Israël, allez d'accord, on le fait. Ils l'ont payé. On paye. On a payé très cher nos voyages dans les exils, dans les différents pays. Très très cher. Mais on a ramené des choses de valeur. Et comme il dit à la fin, il dit, Véakol, la catinia avant la fin. Oui, Vezenikrat Architim, c'est ça qui s'appelle des bijoux. Routz, ça s'appelle des bijoux parce que c'est en dehors. Mais Yofé Aetzem Shalahem, de la beauté par essence qu'ils ont en eux-mêmes, la Neshama. C'est-à-dire la Neshama, donc en réalité, on ne se rend pas compte, mais on a une Neshama qui est avec des bijoux. C'est-à-dire qu'on ne voit pas ce bijou. Mais notre Neshama, elle est décorée de toutes les étincelles de sainteté qu'on a pu récupérer dans notre vie. D'accord? Quand, par nos contacts, par notre action, par ce qu'on a fait, par ce qu'on a vu. Et donc, il y a mille manières de récupérer des étincelles. Il y a des grosses étincelles, des petites étincelles. Mais je veux quatre lignes avant la fin pour terminer. Achen, je relis cette phrase-là. Vadaï, c'est sûr, il y a tout qu'un accol, que tout sera réparé, Be'ezer Hachem, avec l'aide de Dieu, Yitbarach, Ad Geoula Atida, jusqu'à qu'arrive la délivrance finale, Veze Hachvar, c'est ça la louange, chez Asou Gidvar Moshe, que les Bnei Israël, ils ont fait comme la parole de Moshe, ils ont dit, allez d'accord, on va au Maroc, on va en Espagne, on va en Europe, on va partout, on emprunte l'équilibre, et on récupère les étincelles. Donc une mission secrète. En plus de notre mission personnelle. Chabes.